Chapitre 4. L'entrée de la maison que ma tante a conservée à Guérande est sur une ruelle dans laquelle on pénètre par une petite poterne. De ce côté de la ville, une partie des remparts appartient à Madame d'Arlancé et les jardins, cultivés à cette hauteur, m'ont paru délicieux. Des tonnelles à l'ancienne mode permettent de s'asseoir à l'ombre en face des marais salants que l'œil abandonne pour regarder à l'horizon les lignes un peu perdues de la mer. En se penchant, on aperçoit l'eau verte des douves, les arbres poussés dans l'humidité, les plantes accrochées aux murailles et la promenade plantée de vieux ormeaux qui fait, en bas, le tour des fortifications. L'endroit même, surtout la maison moyenne et sans confortable, déplaisait tellement à Madame d'Arlancé qu'elle a fui Guérande pour s'installer au Croisic. En visitant la ville minuscule, je ne comprenais pas bien l'impression de ma tante, car l'évocation, qui m'entraînait dans le passé, me tenait lieu de réalité. Tout revivait autour de moi, avec les costumes pittoresques et les coutumes traditionnelles. L'église, très ancienne, est au centre, et les maisons, groupées autour d'elle dans un espace aussi restreint, ressemblent à des poussins abrités sous l'aile maternelle. Dans la rue principale, d'amusantes petites boutiques ont l'air de faire partie d'une même famille. Il semble impossible qu'aucun crime soit jamais commis dans cette atmosphère familiale et rétrécie. Que pouvaient penser les habitants de Guérande? Je me le demandais en rêvant et en observant une vieille dame, à mise antique, accompagnée d'une servante portant une chaufferette, malgré le beau soleil de mai. Avait-elle passé sa vie dans cette ville miniature? Et que renfermait un cerveau qui avait vécu sans autre horizon que l'église, les petites ruelles, les petits magasins, les fortifications et leurs 11 portes encore debout? Après être entré et sorti successivement par ces portes, dont aucune ne se ressemble absolument, j'exprimais à Madame d'Arlancé l'étonnement que m'inspirait son antipathie. « Comment n'aimez-vous pas ce drôle de petit coin ? Tu le vois par le soleil, mais par la pluie, c'est affreux. J'y ai passé tout un hiver et je sais à quoi m'en tenir. La pluie au Croisic est-elle plus gaie ? Non, mais il y a la mer. La contemplation des murailles pittoresques ne me suffit pas. Il me faut du mouvement et la mer vit, respire, parle au besoin. Et comme société, qu'y a-t-il ici ? Des débris, tu vas en juger. » Ce disant, ma tante frappa à la porte d'une maison avec un heurtoir, car une particularité de cet endroit, c'est que les sonnettes aux portes sont un luxe encore rare. Une servante de 60 ans environ vint nous ouvrir et nous reçut comme si elle était elle-même la maîtresse de la maison. « C'est Madame d'Arlancé, et voici Mademoiselle de Haumont, n'est-ce pas ? Nous sommes heureuses de vous voir, mademoiselle. » « Ah, ma maîtresse va être bien contente, elle aime tant la jeunesse. Et moi aussi, je l'aime, je vous assure. » Ces paroles étaient prononcées sur un ton si cordial, si simple, que la réception de la vieille servante me parut toute naturelle. Inféodée à la maison, elle considérait comme son devoir d'y exercer elle-même l'hospitalité. Mademoiselle de La Flage, amie de la famille d'Arlancé et marraine d'André, était dans son jardin, assise bien à l'abri du vent, dans une grande niche d'osier, près d'un vieux puits dont la margelle lui servait de table pour poser son livre et son tricot. Sous l'auvent moussu de la porte, du lilas de terre tout rose a découvert quelques parcelles de terre pour s'y planter et y prospérer. Dans le jardin, une profusion d'œillets blancs, d'espèces précoces, parfumait l'air, et la servante, assise à la fenêtre de sa cuisine, dans un encadrement de chèvrefeuilles en boutons, écoutait en souriant tout ce que nous disions. La vieille mademoiselle de La Flage, au regard doux, à l'accueil bienveillant, formait avec le cadre un ensemble que je me promis de peindre un jour. Elle a 80 ans, et ma surprise fut extrême de lui trouver un esprit alerte et ouvert. Elle s'intéresse à toutes les questions, depuis la façon d'écussonner un rosier jusqu'à l'organisation complète d'une maison, depuis les idées de son conseil municipal jusqu'à celles des sphères plus élevées, plus supérieures. Elle est étonnante de vivacité et de culture d'esprit. Elle nous fit apporter une coupe de fraises et de biscuits que l'on posa sur la margelle. Tout en mangeant les fruits à belles et bonnes dents, je l'écoutais évoquer de vieux souvenirs avec Madame d'Arlancé. De temps à autre, elle s'interrompait pour m'adresser la parole et me regarder avec un plaisir qu'elle ne dissimulait pas. « Je vous regarde, mon enfant, me dit-elle, votre joli visage me plaît infiniment. » Pendant que, sur son conseil, j'allais cueillir des œillets blancs, elle dit un mot à Madame d'Arlancé, qui se récria vivement. « Non, certainement. Et puis, vous savez qu'André... C'est dommage, elle est charmante. » Le reste se perdit pour moi, mais je devinais facilement la pensée de Mademoiselle de la Flage. « Si elle savait, me disais-je, quelle antipathie préside et présidera à nos rapports ?» En sortant de chez elle, j'appris que cette vieille femme s'était jadis entièrement consacrée à un frère qui, dans un incendie, avait perdu sa femme et la vue. Depuis la mort de M. de la Flage, elle ne parle plus jamais de ce drame affreux dans lequel son propre bonheur a sombré, me dit ma tante. Le lendemain, je retournai seule chez Mademoiselle de la Flage pour lui remettre un livre. Elle me garda longtemps, me fit goûter près du vieux puits, s'intéressant à toutes mes paroles. « Je regrette que vous ne passiez pas l'année à Guérande, mon enfant. Si vous le permettez, je reviendrai et ferai un tableau de tout ceci. » « Peindre ma maison, s'écria-t-elle avec ravissement, peindre mon puits et mon auvent si joli ?»« Et vous-même, dis-je en souriant. Venez, venez, ce sera un plaisir pour moi de voir quelquefois vos grands yeux bruns et vos cheveux cendrés. » Comme je la remerciais, André est arrivé. Il ne passait qu'une heure à Guérande, mais il n'eut pas omis de rendre visite à Mademoiselle de la Flage, pour laquelle il a une déférence qui m'enchante. Elle le regardait d'un œil complaisant, maternel, et lorsqu'il partit, elle me dit « Mon filleul est vraiment charmant, c'est un fils modèle et un homme essentiellement bien élevé. »« Il m'est antipathique, » répondis-je sans prendre le temps de réfléchir. Mademoiselle de la Flage ôta ses lunettes et m'observa attentivement. « Ah ah !» dit-elle d'un ton qui me troubla, je ne sais pourquoi. Je m'étais levé pour partir, elle me prit les deux mains. « Comme c'est joli la jeunesse, et aveugle. Je suis votre amie, ma mignonne, ne l'oubliez pas le cas échéant. » À mon arrivée dans un pays relativement inconnu, cette sympathie subite d'une vieille femme m'a été douce. Une manifestation affectueuse a le don d'exciter en moi la puissance d'aimer, laquelle, je crois, est grande, et de remuer une foule de bons sentiments. Deux jours après, nous entrions dans la maison que Madame d'Arlancé a louée sur le port du Croisic. Elle est vaste. La façade est tournée vers le jardin, dont la porte discrète ouvre sur le quai Lénigo. Le jardin n'a que deux ou trois arbres, dont la tête penche du même côté, sous le souffle du vent salin. Contrastant avec ces arbres rabougris, des arbustes, protégés efficacement par le mur, sont verdoyants et touffus. Madame d'Arlancé est fière de la fraîcheur de son jardin, dans lequel les fleurs, qu'on plante et sème à profusion, ont le bon goût de s'épanouir, en dépit d'un voisinage ennemi. « Ici, me dit ma tante avec satisfaction, je suis tranquille. » La maison, comme beaucoup d'autres croisées, a une tour carrée qui fait corps avec le reste du bâtiment et dépasse les toits de la hauteur d'un étage. Mon cousin s'y est installé, dans la chambre du haut, en face de la mer. Il élabore des plans après avoir erré dans le pays et surveillé des ouvriers. Ma chambre, située dans le pignon, ouvre sur le port, en face de Penbron, et ma tante a mis toute l'ingéniosité de sa bonté pour qu'elle me plaise. Le grand salon est confortable, élégant, et toutes les pièces ont ce même caractère, Madame d'Arlancé s'entendant admirablement à donner, même à une installation provisoire, la marque de ses goûts. André, qui était à Paris, est revenu hier, et aujourd'hui, à sa mine soucieuse, je pressentis que ses devoirs envers moi lui avaient adressé un discours éloquent. En effet, après le dîner, il est venu s'asseoir auprès de sa mère et sentencieusement lui a dit « Il faudra que Jacqueline organise un peu sa vie et ne soit pas toute la journée dehors à flâner devant des bateaux. Nous arrangerons cela, dit ma tante, qui me lança un regard inquiet dont le sens ne pouvait m'échapper. Je n'eus garde de m'en apercevoir, car j'ai résolu de tenir tête à mon cousin. Tout affublé qu'il soit d'un titre de tuteur, je le considère comme un simple jeune homme qui n'a aucune des qualités voulues pour conseiller et conduire une fille de 20 ans. Une fille sérieuse, raisonnable, je m'en flatte, et qui a profité, il s'en apercevra, de son instruction, de ses lectures et de ses rapports avec des amis distingués de sa mère. Je suis convaincu que ma science, concernant ma propre psychologie, est infiniment supérieure à la sienne. Dès l'abord, je l'ai compris, et instinctivement, j'ai suivi une marche qui deviendra un projet raisonné. « J'ai l'habitude de m'occuper, » répondis-je froidement. Ma tante lui fit un signe, mais il avait médité son devoir de censeur, et s'y cramponnant héroïquement, il continua. « J'ai remarqué, Jacqueline, que vous aimiez la flânerie d'une façon exagérée. Nous sommes arrivés depuis 1 mois, et d'après ce que vous m'avez dit vous-même, ma chère mère, vous n'avez vu à votre nièce aucune occupation suivie. On sait qu'1 mois tient une place énorme dans la vie. L'ironie n'est pas de mise quand je vous fais une observation raisonnable, » me dit-il avec une sévérité qui contrastait si complètement avec sa jeunesse que je lui répondis en riant joyeusement. Mais comme j'ai horreur de blesser et que je le voyais tout rouge, je m'empressai d'ajouter « Pardonnez-moi et soyez rassurés, je m'occuperai. Mais votre jeunesse contraste si vivement avec votre sévérité que je n'ai pu… » Ma jeunesse, elle s'est pliée à un travail acharné depuis que je me connais. C'est un fait qui permet de donner quelques conseils sur la valeur et l'emploi du temps. Je revins aussitôt à mon agacement. « Que voulez-vous ? Vous êtes un homme, moi une femme. »« Eh bien ? Eh bien, voilà !» Il me regarda d'un air fulminant, ouvrit la bouche avec l'intention de m'écraser sous des paroles évidemment remarquables, et ne trouvant rien à dire, il sortit en claquant la porte. Maîtresse du champ de bataille, je n'en éprouvais, à vrai dire, aucun soulagement, surtout en observant le visage de ma tante qui tirait son aiguille d'un air contrarié. « Jacqueline, tu ne te rappelles déjà plus notre conversation à Aumont ?»« Si, ma tante, mais avouez qu'André est crispant. » Ce serait un aveu en contradiction avec ma pensée. Il est intelligent, travailleur et bon. Tâche de t'en souvenir. Ne pourrait-il me laisser tranquille et comprendre un peu mieux une jeune fille ? Il te comprendra. Attends un peu. J'en doute. En tout cas, je me sens assez de caractère et d'intelligence pour organiser ma vie sans qu'il s'en mêle. Madame d'Arlancey, croyant que je m'irritais, ne souffla mot, ce qui eût été le meilleur moyen de me calmer si j'en avais eu besoin. Je n'étais ni irrité ni même ému, mais ma résolution était prise de soutenir mon droit. Aujourd'hui, j'ai repris mes crayons et mes pinceaux. Mon cousin me savait un certain talent, mais depuis 2 ans, j'ai beaucoup travaillé sous la direction d'un professeur remarquable, mes progrès ont été très grands et André n'a pas dissimulé son étonnement. C'est la première petite satisfaction que j'ai eue avec lui. Dans ma chambre, je flâne, la vue charmée par le mouvement de la marée et les effets d'une lumière qui métamorphose, à différentes heures, la nappe d'eau que je vois s'étendre sur le trait, sorte de petit golfe dans lequel la mer pénètre 2 fois par jour pour le laisser ensuite aussi sec que si elle n'existait pas. Je flâne en plaignant ceux qui ignorent les délices de la flânerie, qui ne comprennent pas cette activité de faculté rêveuse, ces riens fugitifs qui entrent dans le souvenir pour former une réserve de subtiles impressions ou d'idées aux contours imprécis.